RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous. Le 11 février, à l'occasion de la conférence nationale sur le handicap, Emmanuel Macron s'est dit déterminé à améliorer la question cruciale de l'inclusion concernant les enfants autistes. Atteints d'un trouble autistique, le président de la République a annoncé la création de 45 unités d'enseignement autisme en plus de celles déjà prévues dans la stratégie nationale. Une stratégie nationale qui, parmi ses mesures, va aussi accentuer les efforts autour du diagnostic précoce afin de limiter le surhandicap. Ces efforts vont bien évidemment dans le bon sens, mais sont-ils suffisants? Depuis plusieurs années, malgré les plans qui se succèdent, la France cumule, par rapport à ses voisins européens, un important retard dans la prise en charge et l'inclusion des enfants et des adultes autistes. En complément de ce travail de l'État, l'engagement des associations est dans ce domaine essentiel pour agir vite et mieux. Focus ce matin, dans le temps de le dire, sur un certain nombre d'initiatives qui redonnent espoir aux personnes concernées par ce trouble et à leurs familles. Afin de sortir du mur, comme l'écrivait au président Macron Michael, un enfant autiste de 8 ans, un mur contre lequel butent, comme lui, des milliers d'enfants, ainsi que leurs parents.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Cette émission est présentée en partenariat avec la FIRA, la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, qui a coordonné un programme de 4 ans sur l'usage des nouvelles technologies des enfants autistes âgés de 2 à 18 ans. La FIRA organise la 7e rencontre handicap, recherche et citoyenneté le 17 mars à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Il est possible de s'inscrire sur le site de la Fondation. Et ce matin, dans le temps de le dire, je reçois quelques représentants des projets de ce programme qui seront mis en avant lors de cette rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté. Danielle Langlois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'Autisme France. Sandrine Saunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, pédopsychiatre, coordinatrice du Centre de ressources Autisme Rhône-Alpes. Vous êtes avec nous ce matin en direct depuis le studio de RCF à Lyon et vous avez pris part, Sandrine Saunier et Danielle Langlois, au web documentaire Autisme, les premiers signes, produit par la FIRA en collaboration avec Autisme France et donc le Centre ressources Rhône-Alpes. Il a été réalisé par Benjamin Laurent et Claire Martin. Laetitia Coalio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice à l'Institut National supérieure de formation de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Et Rodolphe Sioula est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, papa d'un petit garçon atteint d'autisme. Vous êtes engagé dans le milieu associatif, en particulier au sein de l'association TSA 93 qui a pour but d'informer et de conseiller les parents sur les conditions d'une meilleure prise en charge de l'autisme. Alors le projet pour lequel vous vous êtes particulièrement investi, Rodolphe Sioula et Laetitia Coalio, ça concerne la plateforme Autisme en ligne, réalisée donc par l'INSHEA et la nouvelle école Farny. Elle vise à mettre à disposition des enfants une plateforme d'auto-formation d'accès gratuit et ouvert qui peut bien sûr être aussi utilisée par les parents. Son objectif, c'est de mieux aider à repérer précocement les signes du trouble autistique. Alors, comme chaque matin, vous avez la parole dans cette émission. Si vous êtes de près ou de loin concerné par l'autisme et si vous voulez partager vos difficultés ou vos espoirs concernant les modalités d'une meilleure prise en charge des enfants autistes, que ce soit sur le plan du diagnostic ou de la scolarisation, un seul numéro de téléphone à composer dès maintenant, le 04 72 38 20 23, ou nous écrire par mail, le temps de le dire, @rcf.fr.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
J'aimerais pour commencer cette émission que vous puissiez réagir à cette stratégie nationale sur l'autisme qui a été dévoilée. C'était le 5 avril 2018 par Emmanuel Macron. Alors elle est centrée sur, et c'est le but aussi de cette émission d'en parler, un diagnostic plus précoce et puis aussi la question de la scolarisation. Comment, Danielle Langlois, vous avez réagi à l'annonce de ce plan en avril 2018?
Positivement, parce qu'il y avait des mesures qui allaient dans le bon sens, par exemple l'augmentation des unités d'enseignement maternel et puis la création d'unités d'enseignement élémentaire pour prendre la suite de ces unités d'enseignement maternel, parce que la suite n'avait pas été prévue par le plan précédent. En ce qui concerne le diagnostic, nous avons regretté que cela concerne l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux dans les plateformes qui leur sont dédiées et pas de manière spécifique l'autisme, alors que le plan Autisme 3 avait lancé des plateformes de diagnostic précoce pour les enfants autistes et l'articulation entre les deux n'est pas prévue. Par ailleurs, ces plateformes TND, troubles neurodéveloppementaux, ne sont pas directement accessibles aux familles. Donc c'est un obstacle aussi pour les familles qui ont du mal à se repérer maintenant pour savoir vers qui se retourner quand on a des doutes sur un enfant. Puis c'est 0-6 ans l'âge. Et dans l'autisme, il ne faut pas oublier que le diagnostic il est fiable à partir de 18 mois, comme c'est montré dans le web documentaire que nous avons fait avec la FIRA et le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes.
Sandrine Saunier, vous partagez les réserves exprimées à l'instant par Daniel Langlois.
Alors, je partage en partie les réserves. Certain que les plateformes sont à la fois un progrès, mais elles doivent s'inscrire dans un environnement. Et actuellement, on est en train de chercher l'articulation entre des centres de diagnostic précoce spécifiques à l'autisme et ces plateformes dédiées aux troubles du neurodéveloppement. Mmh. Cela dit, concernant la stratégie nationale, moi, ce qui me paraît important, c'est de remettre les connaissances actuelles et la science au cœur de la stratégie nationale en étant très clair sur les modalités de prise en charge des enfants et des adultes. Donc ça a été un progrès.
Rodolphe Sula, même question vous concernant ce plan autisme, cette stratégie autisme qui a pour but, et c'est le terme qui ont été employés par le gouvernement, c'est de sortir les enfants et les adultes autistes d'une logique d'enfermement. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire, au-delà de votre avis sur ce plan, ce qu'est cette logique et quelles sont ses conséquences, cette logique d'enfermement? Ce sont les termes employés par le gouvernement.
Alors en fait, il s'agit vraiment d'une question de modèle de société. Et le modèle traditionnel au niveau de la société française, c'est une logique de séparation. C'est-à-dire qu'on a une filière habituelle pour les enfants typiques, qui est l'école et la vie sociale traditionnelle. Et on a une filière séparée pour les enfants en situation de handicap qu'on va, permettez-moi l'expression, enfermé, d'abord dans le secteur médico-social ou le secteur sanitaire, c'est-à-dire les hôpitaux de jour, etc. Donc cette question aujourd'hui, c'est qu'on a un changement de paradigme que nous on appelle de nos voeux en tant que parents, qui est un modèle d'inclusion, un modèle de participation sociale, c'est-à-dire que ce ne sont plus les professionnels qui doivent être regroupés dans des centres, ce sont les professionnels qui doivent sortir des centres spécialisés, des IME, des hôpitaux de jour, et qui doivent venir au long cours, travailler avec les enfants dans leur lieu de vie naturel. Lieu de vie naturel, ça va être l'école, puisque le premier lieu de participation sociale, ça va être l'école, la scolarisation. Donc ces professionnels doivent venir à l'école. On est vraiment dans un changement de modèle. On répond aux besoins spécifiques des enfants. C'est être sur leur lieu de vie normal, logique, dans une perspective d'autonomie au long terme.
Laetitia Coalio, un changement de modèle, on pourrait même dire plus un changement de culture.
Oui, complètement, parce qu'effectivement, c'est ce modèle un petit peu avec une séparation des cursus que décrit Monsieur Sula est encore malheureusement très actuel, même s'il y a des avancées qu'on peut tout à fait souligner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste complexe, et tant qu'on pensera à l'accueil des élèves en situation de handicap comme un problème à gérer et non pas quelque chose d'habituel qui relève véritablement d'une école inclusive qui est en capacité d'accueillir l'ensemble des élèves, on aura des difficultés à accueillir correctement et à scolariser. J'insiste sur le terme de scolariser, parce que c'est pas simplement les accueillir à l'école, c'est leur permettre aussi de faire des apprentissages, de progresser, de pouvoir acquérir un maximum d'autonomie grâce à ces apprentissages. Effectivement, ça restera un petit peu compliqué. Donc il y a des avancées, mais il y a beaucoup de choses qui doivent encore être menées en termes de décloisonnement des professionnels, en termes de formation aussi. C'est extrêmement important de pouvoir accompagner les professionnels dans cette démarche d'inclusion, et aujourd'hui ça reste encore fragile.
Alors on reviendra sur cette question spécifique de l'inclusion en milieu scolaire ordinaire dans cette émission. J'aimerais quand même revenir à non seulement ce plan, cette stratégie, mais aussi aux annonces récentes d'Emmanuel Macron. Je le disais en introduction, lors de la conférence nationale sur le handicap, le président a annoncé que 45 unités d'enseignement autisme en plus de celles déjà prévues dans la stratégie nationale seront créées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces unités, et est-ce suffisant, Daniel Langlois?
Alors, il s'agit, si nos renseignements sont exacts, d'unités élémentaires autisme. Il y en avait 45 qui étaient prévues d'ici 2022 dans la stratégie autisme, ce qui ne faisait même pas une par département et donc était notoirement insuffisant. Donc, il y en aura 45 autres, ce qui est plutôt satisfaisant sur le principe. Le problème, c'est que dans la stratégie, ces unités, elles sont très faiblement dotées. Elles ont 4 fois moins d'argent que les unités d'enseignement maternel, tout en ciblant le même type de public. c'est-à-dire des enfants qui, malgré un soutien éducatif solide, par exemple en unité d'enseignement maternel ou ailleurs, hein, en libéral, Quincessad, enfin bon, il y a différentes variantes, ne peuvent pas suivre une scolarité ordinaire sans un soutien éducatif soutenu pour aider les enseignants et pour faire en sorte que les enfants puissent continuer leurs apprentissages. Alors, on a cru comprendre qu'il y aurait peut-être des dotations supplémentaires. Une des difficultés des annonces faites par M. Macron, c'est qu'il n'y a pas de financement qui est joint. Donc, ce sont des annonces fortes. Hein, je veux dire, voilà, je ne peux que m'en réjouir. Mais on ne sait pas quel est le plan de financement qui va avec.
Oui, alors, il y a cette question-là. Il a été question aussi du forfait intervention précoce pour l'autisme qui devrait être étendu aux enfants jusqu'à 12 ans inclus contre 6 aujourd'hui. Sandrine Saunier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce forfait? Qu'est-ce qu'il permet? Est-ce une mesure qui va dans le bon sens? J'imagine que oui.
Alors, c'est une mesure de toute façon qui amène des progrès pour les familles, mais c'est un forfait d'intervention précoce pour tout l'ensemble des troubles du neurodéveloppement qui actuellement est disponible de 0 à 7 ans, mais qui ne dure qu'un an. C'est pas un forfait d'intervention précoce jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Ça permet aux familles pour lesquelles on dépiste un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement de pouvoir accéder à des prises en charge qui sont actuellement pas remboursées par la Sécurité sociale, comme de la psychomotricité, de l'ergothérapie ou des bilans psychologiques. Donc c'est pour un an, en attendant finalement qu'ils aient accès à des structures de prise en charge comme les centres d'accueil médico-sociaux précoces ou les centres médico-psychologiques, ou qu'il y ait un relais par les dossiers, la compensation par les dossiers proposés à la MDPH. Donc un forfait pour un an, c'est déjà bien parce que ça permet de commencer des prises en charge. Quand il pourra durer jusqu'à 12 ans, c'est-à-dire que des enfants à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans pourront eux aussi avoir accès à ce forfait précoce pendant un an.
Rodolphe Stula, donc une mesure qui va dans le bon sens, mais on peut le dire parce qu'on n'en a pas encore parlé, même si je crois que je l'ai dit en quelques mots dans l'introduction, la France a quand même beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens.
Oui, alors en fait, ça pose plusieurs problèmes. La question du bordage de ce forfait intervention précoce, parce qu'en fait, ça part de l'idée que, en gros, si on remet l'enfant sur les rails, d'ici quelques mois, ça ira. Et le gros problème, c'est qu'il faut un suivi au long cours. Et ce suivi au long cours, il coûte extrêmement cher aux familles. Parce que si on veut avoir faire appel à des professionnels compétents, il faut que ce soit vraiment sur des années qu'on met en place un accompagnement psycho-éducatif par des éducateurs et des psychologues formés. Et ça ne dure pas un an. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire même beaucoup plus. Et l'autre problème qui se pose, c'est la question de la formation des AESH à l'école.
AESH, pour nos auditeurs, ce sont donc des accompagnateurs.
Voilà, accompagnant des élèves en situation de handicap. Et le problème, c'est que souvent, il y a un manque de formation de ces personnels. Or, nous, ce qu'on demande, puisque l'accompagnement des élèves autistes à l'école, c'est vraiment un métier spécifique, la création d'un métier, vraiment, d'accompagnant psycho-éducatif spécialisé en autisme, intervenant selon les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM, et qui soit surtout supervisé. Parce que pour faire en sorte que l'enfant progresse au niveau de l'autonomie, ses moyens de communication, ses interactions sociales, des compétences académiques, il faut vraiment qu'il y ait une équipe autour de lui qui l'accompagne vraiment au long cours, hein, j'insiste sur ce terme, et ça ne dure pas un an.
Une véritable formation, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans ce sens, Laetitia Coelho?
Il y a des choses qui vont ce sens. Là, on est en train de travailler sur la refonte, par exemple, des formations initiales des enseignants. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, puisque je ne sais pas si ça a été rendu public pour l'instant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'un des grands points d'avancée en France sur la formation, notamment des enseignants, puisque c'est le domaine dans lequel je travaille, c'est le fait que pour l'instant, on a des formations qui sont essentiellement hors sol, qui ne sont pas dans les établissements, mais qui se font à l'INSHEA, qui se font dans les INSPE, etc. Et on n'a pas suffisamment de formations qui accompagnent les professionnels sur le terrain. Et c'est très bien d'avoir des formations entre guillemets hors sol dans une première étape, mais il faut ensuite qu'on soit en capacité, cette formation, de la faire également au long cours, d'accompagner les équipes dans des situations réelles, de leur montrer les gestes professionnels adaptés, de travailler avec eux sur des réponses individuelles en fonction des problématiques qui sont rencontrées. Donc ça, c'est vraiment un axe majeur de progrès sur lequel on peut travailler. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font actuellement sur des plateformes, dont la plateforme Autisme en ligne, par exemple, ou la plateforme Camp École Inclusive également. Ce sont des outils qui sont effectivement très intéressants, qui peuvent aider les professionnels, mais qui ne doivent en rien se substituer aussi à l'accompagnement de terrain et à la supervision. Qui est un axe de progrès majeur dans l'accueil des élèves et dans l'accompagnement des professionnels qui les accueillent.
L'émission Le Temps de le dire sur RCF se poursuit dans deux minutes après une première pause musicale. On parlera après la pause plus spécifiquement du diagnostic précoce, comment le renforcer, pourquoi est-ce essentiel. À tout de suite sur RCF.
Coming down with something, I began to feel a chill. Woman, I said that I would get to know you, and I will. The rain is blowing at your window, and you've come so many miles. But oh, still, don't try to fight the shadows in your mind. It's a long, 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 lonely life. Sometimes you gotta hold your head up high if you want to break the chain past life. My dear, don't you worry no more. Let me find an empty meadow where the snow falls on the grass. Nothing real can ever fade from memory, but nothing lasts. It's a long, 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 lonely life. Sometimes you gotta hold your head up high if you want to break the chains from your past life. My dear, don't you worry no more.
C'était Liam Gallagher sur RCF.
Pour intervenir en direct, le temps de le dire @rcf.fr ou le 04 72 38 20 23.
Comment mieux accompagner les enfants autistes? Nous nous posons la question ce matin dans le temps de le dire sur RCF, une émission en partenariat avec la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap qui organise le 17 mars à Paris la 7e rencontre Handicap Recherche et Citoyenneté, journée au cours de laquelle seront mis en avant un certain nombre de projets portés par mes invités, le web documentaire Autisme, les premiers signes, auquel Daniel Langlois et Sandrine Saunier vous avez pris part. Vous êtes respectivement la présidente d'Autisme France et la coordinatrice du centre de ressources Autisme Rhône-Alpes. Autre projet, la plateforme Autisme en ligne réalisée par l'Institut National Supérieur de Formation de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. Laetitia Coilio et Rodolphe Sioula nous en parlent. Alors, Sandrine Saunier, comment on peut repérer les premiers signes de l'autisme? Vers qui les parents qui ont un doute peuvent se tourner?
Alors, les premiers signes, c'est déjà les inquiétudes des parents. Quand un parent est inquiet et repère des particularités de développement de son enfant, il va se tourner en général vers une infirmière péricultrice, vers son médecin traitant. Donc, et c'est les bonnes personnes vers qui il doit s'adresser. Donc, la première chose, je dirais, au médecin traitant, c'est d'écouter les parents, de ne pas les rassurer à tort, trop tôt. C'est vrai qu'un développement particulier d'un enfant, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'autisme, mais ça peut être un trouble du neurodéveloppement ou de l'autisme. Donc, quand les parents s'inquiètent, en général, ils ont raison. Donc, c'est déjà de les écouter. Ensuite, c'est d'avoir des médecins généralistes, des pédiatres bien formés aux premiers signes de l'autisme. qui peuvent se repérer, comme le disait Madame Langlois, très tôt, hein, dès l'âge de 18 mois, 2 ans, on peut déjà avoir des signes d'inquiétude qui nécessitent un suivi. Donc ça va être plutôt ce type de personnel. Actuellement, on forme aussi les crèches, les personnels de crèche, les médecins scolaires. Donc il y a tout un plan de formation qui permet aux professionnels de la petite enfance d'être alertés sur les anomalies de développement que peuvent présenter très précocement des enfants avec autisme.
Alors pourquoi c'est utile de regarder notamment ce web documentaire « Autisme, les premiers signes » Daniel Langlois? Parce qu'il y a un déficit de connaissances, d'informations sur le sujet de la part des parents qui ont un enfant atteint de ce trouble.
Notre association a fêté ses 30 ans l'année dernière et ça fait partie des priorités pour nous. Le repérage, le diagnostic et l'intervention précoce. C'est une demande constante depuis 30 ans. C'est un point de consensus scientifique que plus personne maintenant ne nie. On a au moins gagné ça depuis déjà plusieurs années. Le problème, c'est que les connaissances après sur le terrain restent aléatoires. Alors, pas tant de la part des familles, je pense, qui souvent repèrent des difficultés de développement. Alors, pas toujours, pas toutes, hein. Il y en a qui sont dans le déni aussi. Mais souvent, les parents, quand même, sont bien armés pour repérer les premières difficultés de développement de leur enfant. Mais souvent, les professionnels, eux, ne sont pas formés au repérage de ces signes-là. Donc, l'objectif de ce web documentaire, c'était... les parents, oui, toujours les parents. Il faut que les parents soient toujours partenaires de tout ce qui est fait comme sensibilisation ou formation à l'autisme. C'est un minimum. Mais les professionnels de la petite enfance, tous les professionnels concernés par la petite enfance, aussi bien des médecins que des psychologues, que les nounous, que... Enfin bon, tous les professionnels qui, eux, peuvent être amenés à être en lien avec des enfants tout petits pour qu'ils participent au repérage diagnostique de manière précoce et qu'ils puissent alerter à leur tour d'autres professionnels vers qui envoyer les enfants et les familles pour se faire aider. Alors, travail peine encore à être mis en œuvre.
Rodolphe Stula, dans votre cas personnel, si vous souhaitez en parler, bien sûr, comment ça s'est passé? Je le rappelle, vous avez un enfant, je crois, qui a 8 ans, qui a un trouble autistique. 9 ans.
9 ans. Alors, bon, j'évoque rarement le cas personnel.
Non, vous n'êtes pas obligé.
Non, mais là, en fait, c'est assez caractéristique, donc ça peut apporter quelque chose au débat. Donc, nous, avec sa maman, on s'est alerté dès ses 12 mois, parce qu'il y avait vraiment des différences très, très notables par rapport au développement d'un enfant typique. Et comme tous les parents, donc on va en PMI donc pour en parler au médecin traitant, le pédiatre en l'occurrence. Et à chaque fois qu'on avait une inquiétude, le médecin nous rassurait. Il nous a rassuré à 12 mois, rassuré à 15 mois, rassuré à 18 mois, rassuré à 24 mois, pour qu'à 27 mois, donc à 2 ans et quelques, ils nous disent « il serait temps de vous inquiéter ». Alors que pour nous, on avait vraiment des signes extrêmement visibles. Donc là, y a un vrai problème la formation des pédiatres, des médecins, de PMI.
Et de l'ensemble des professionnels de santé.
Et de l'ensemble des professionnels qui n'arrivent pas justement à répondre à cette inquiétude légitime des parents qui finalement, dans notre cas, avaient vu plus tôt que prévu les problèmes qui ensuite allaient démontrer que notre enfant donc est porteur de troubles du spectre de l'autisme. Alors la deuxième chose, c'est que moi je pense qu'il est essentiel dans la démarche du diagnostic de mettre ensuite les interventions précoces. Pourquoi ? Plus tôt on a le diagnostic, plus tôt on démarre les interventions précoces, on a la possibilité de jouer sur la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que plus l'enfant est jeune, plus tout ce qui va être en termes de communication, développement des interactions sociales, on va pouvoir jouer là-dessus et finalement limiter le surhandicap, travailler sur l'autonomie et faire en sorte que après on ait un enfant, puis ensuite un jeune adulte qui soit le plus autonome possible. Donc finalement, tous ceux professionnels qui préconisent aux parents d'attendre, que c'est une question de maturité, que c'est un garçon, qu'il est un petit peu plus lent, voilà, toutes ces fadaises, permettez-moi l'expression, retardent les interventions précoces et finalement agissent contre l'intérêt propre de l'enfant et de son développement.
Oui, il faut peut-être en dire un mot supplémentaire, Laetitia Coelho, de cet impact d'un diagnostic précoce sur le développement futur de l'enfant.
Oui, c'est certain, parce que effectivement, c'est un trouble neurodéveloppemental, l'autisme, donc par définition, ça s'inscrit dans le cadre du développement de l'enfant, et plus on intervient tôt, plus on a la possibilité de limiter le surhandicap qui s'installe quand on a des apprentissages qui ne se font pas parce que la prise en charge n'est pas adaptée et que du coup, l'élève cumule des déficits qui ne devraient pas s'installer s'il y avait un accompagnement adapté. Je vais prendre un exemple tout simple. Pendant assez longtemps, on a associé autisme et déficience intellectuelle. On sait maintenant aujourd'hui que la déficience intellectuelle n'est pas systématique systématiquement associée à l'autisme, loin de là. Mais par contre, on a effectivement des, entre guillemets, des fausses déficiences intellectuelles qui viennent du fait que, bon, déjà, on a du mal à évaluer le potentiel des élèves autistes puisque la communication et les compétences verbales sont un des éléments qui sont impactés dans l'autisme et les tests que l'on a sont souvent basés sur les compétences verbales. Donc déjà, ça fausse un petit peu l'évaluation des compétences. Mais par ailleurs, effectivement, quand les apprentissages, les interactions sociales ne se mettent pas en place, donc toute la dynamique d'apprentissage ne se met pas en place non plus, on a des déficiences intellectuelles secondaires, des fausses déficiences intellectuelles qui viennent simplement d'un déficit des acquis qui se creusent ensuite au fil des années, alors que si on intervient tôt, on peut avoir un pronostic bien plus favorable et espérer pouvoir faire rejoindre à l'élève, à l'enfant, une trajectoire développementale la plus favorable possible.
Sandrine Saunier, j'aimerais vous faire réagir à ce message de Séverine. Elle nous dit « Pour moi, l'accompagnement des autistes devrait porter sur la psychomotricité. Nous n'avons pas un bon schéma corporel. » Et l'explicitation de codes sociaux. Elle nous précise, Séverine, qu'elle est elle-même autiste Asperger et qu'elle a un enfant qui est atteint de ce trouble autistique. Sandrine Saunier.
Alors, c'est vrai que la psychomotricité est un des axes de la prise en charge, mais pas le seul. Certains enfants vont avoir besoin d'être aidés au niveau moteur, au niveau des praxis, c'est-à-dire des gestes et de la coordination motrice, d'autres beaucoup moins. Donc il faut bien penser et retenir que la prise en charge des enfants avec autisme et même des adultes, elle est individualisée selon leurs besoins. C'est vrai cependant que le développement moteur et les particularités motrices des enfants autistes nécessitent des prises en charge en psychomotricité, mais des prises en charge qui sont extrêmement variables d'un praticien à l'autre et qui sont peu évaluées actuellement. Donc il y a tout un travail et un champ de recherche sur l'impact de la psychomotricité sur l'évolution des enfants avec autisme.
Un autre message, même si on a répondu en partie à cette question, c'est un message de Jean-Jacques de Tours. Quels signes pourraient alerter les parents? Fait-on des recherches sur les causes de l'autisme? Daniel Langlois.
Alors, l'autisme, c'est un problème de communication sociale. Donc, ce que repèrent les parents très vite, c'est les difficultés d'interaction de l'enfant, y compris avec ses parents, y compris avec sa mère, par exemple, quand il est tout petit. Ses difficultés aussi avec ses pères, par exemple, à la crèche. Ça, c'est repéré par les professionnels de la petite enfance. Il peut y avoir d'autres troubles, des troubles sensoriels, des troubles moteurs. Enfin, bon, il y a toutes sortes de troubles. Mais c'est d'abord les troubles de la communication sociale, de l'interaction sociale, qui sont majeurs et qu'on repère très rapidement. La deuxième question, c'était...
Alors, la deuxième question, ça porte sur la recherche. J'imagine qu'il y a pas mal de recherches qui sont faites et qui avancent en ce moment sur les causes de l'autisme.
Alors, très difficile de répondre à cette question. Je ne suis pas d'ailleurs scientifique. Bon, on sait que c'est un problème de connexion synaptique, mais on ne connaît pas l'origine de ce défaut de connexion synaptique qui se fait pas ou se fait mal ou se fait d'une autre manière. Il y a des recherches en génétique, par exemple, mais dont on ne sait pas avec quels facteurs environnementaux elles se croisent.
Il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes, Sandrine Saunier. Et puis, on pourra vous entendre aussi, Rodolphe Sula et Laetitia Coaglio, là-dessus, rapidement. Sandrine Saunier.
Oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que c'est bien un trouble du neurodéveloppement, qu'il y a une composante génétique qui est importante, même si on ne connaît pas encore le modèle génétique. Et il y en a sans doute plusieurs modalités qui font qu'un enfant va devenir un enfant avec autisme. Peut-être un impact de certains facteurs environnementaux, mais pour le moment, c'est vrai que, à part de dire que c'est un trouble neurobiologique et neurodéveloppemental, on est vraiment sur des hypothèses de recherche. Par contre, ce qu'on sait, et ça, il faut vraiment le redire, c'est que ce n'est pas un trouble psychologique lié à des difficultés d'interaction entre la maman et son enfant. On est bien sur un trouble du neurodéveloppement.
Rodolphe Sula et Laetitia Coaglio, rapidement, puisque nous avons l'obligation de faire une pause musicale, normalement, une pause, pardon, d'autopromo, comme on dit, normalement à 9h30. Donc nous sommes en retard, mais je vous laisse quand même la parole sur ce point.
Alors, ce qu'on sait, c'est que vraiment, il y a la présence de l'autisme, déjà, au niveau de la vie intra-utérine. Et donc, l'autisme n'apparaît pas dans l'enfance. Voilà. Il faut vraiment sortir du vieux schéma totalement erroné du trouble de la relation mère-enfant, qui malheureusement a irrigué une grande partie de la pensée des professionnels de la petite enfance pendant des décennies. On est heureusement aujourd'hui plus là-dedans, c'est reconnu scientifiquement. Donc, à partir du moment où on a la possibilité, notamment par des techniques qui sont scientifiquement assez élaborées, comme l'e-tracking, qui permet de voir où se pose le regard de l'enfant dans ses tout premiers mois de vie. Et donc, je sais que notamment aux États-Unis, dès 12 mois, des fois, on arrive à repérer les premiers signes d'autisme et qui permettent des interventions précoces, notamment par un modèle qui s'appelle le modèle de Denver, qui a été développé par Sally Rogers et qui permet vraiment d'intervenir le plus tôt possible pour développer la communication et les interactions sociales de l'enfant.
Laetitia Coilio.
Oui, alors juste en complément de tout ça, enfin, moi je ne suis pas scientifique, je suis juste enseignante, mais par exemple dans les domaines actuellement de la recherche dans le domaine de l'autisme, il y a aussi toutes les recherches concernant les troubles associés aux troubles du spectre de l'autisme. Et en tant que professionnelle, c'est très important aussi de pouvoir se tenir à jour de ça, parce que quand on a de l'autisme seul ou quand on a de l'autisme associé par exemple avec un autre trouble du neurodéveloppement comme un trouble de déficit de l'attention ou ce genre de choses, l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer, les remédiations éducatives qu'on va pouvoir mettre en place peuvent être tout à fait distinctes. Donc c'est vraiment important de pouvoir aussi faire le distinguo et de prendre en compte parfois l'association de ces troubles complexes.
Allez, on se retrouve dans une petite minute sur RCF. L'émission, le temps de le dire, continue. On va parler plus spécifiquement dans une minute de l'inclusion scolaire des enfants autistes. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant. Tout au long du carême, RCF vous propose de cheminer vers Pâques avec un podcast inédit, Réorienter sa vie. Chaque jour, pendant 1 minute 30, découvrez le témoignage de personnalités et d'anonymes qui ont fait le choix de changer leur quotidien. Réorienter sa vie, un podcast à écouter sur l'application RCF, mais aussi à recevoir chaque jour par email en vous inscrivant gratuitement sur rcf.fr.
ADF Bayard Musique vous présente sa sélection d'albums pour le carême et le temps pascal. Une sélection d'albums pour le carême et le temps pascal à découvrir sur le site bayardmusique.com et disponible chez tous les libraires disquaires.
En lien avec la FIRA, la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, qui organise le 17 mars à Paris la 7e rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté, nous vous proposons ce matin, dans le temps de le dire, sur RCF, de mieux comprendre les enjeux de l'accompagnement des enfants présentant un trouble du spectre autistique et de leur famille. Quatre invités pour en parler, Danielle Langlois, la présidente d'Autisme France, Sandrine Saunier, pédopsychiatre, coordinatrice du centre de ressources Autisme Rhône-Alpes, et puis Laetitia Coilio, formatrice à l'Institut National Supérieur de Formation de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés, sans oublier Rodolphe Sioula, membre de l'association TSA 93. J'aimerais accueillir maintenant en ligne de Lyon Anaëlle. Anaëlle, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Donc moi, je souhaitais simplement réagir un petit peu à ce que j'entendais pour vous partager une expérience qui est personnelle, puisque j'ai un enfant autiste de 9 ans. Et en fait, ce que je voulais souligner, c'est l'écart entre l'évolution de la recherche et aujourd'hui les progrès qu'on fait dans la connaissance de l'autisme et les volontés un petit peu d'évoluer un peu sur le sujet et la réalité, parce qu'en fait la réalité c'est que aujourd'hui quand on a un enfant qui présente une difficulté, un trouble, une différence, en fait les diagnostics précoces ils sont compliqués à mettre en place parce que personne n'est formé. Ensuite, notre expérience a été beaucoup de temps perdu dans les CMP. CMP, Centre Médico-Psychologique, qui propose une thérapie pluridisciplinaire. Mais en fait, on n'avait que de la psychomotricité et une psychologue. Et finalement, on a perdu du temps, le temps est passé. Et enfin, on n'a pas eu de diagnostic au CEDA. Donc le Centre de dépistage de l'autisme, on a dû se battre pour avoir en fait une reconnaissance d'autisme et le diagnostic était partiel. Et enfin, donc ça bloque au niveau on a dû mettre en place une méthode développementale. On a choisi la méthode 3I pour notre enfant, mais c'est des méthodes qui ne sont pas prises en charge par la MDPH parce que ils considèrent que le libre choix des parents, enfin ils considèrent pas le libre choix des parents pour le bien de leurs enfants en fait. Donc en fait, c'est pour indiquer qu'il y a plein de blocages en fait intermédiaires. Il y a des volontés gouvernementales, il y a des volontés d'évoluer sur le sujet, mais concrètement, dans le quotidien, pour les familles, en fait, vers quoi se tourner, est-ce que leur libre choix est respecté, Est-ce que les sous vont au bon endroit? Enfin voilà, c'est ce que je voulais.
Merci. Merci pour ce témoignage, Anaëlle, et ces questions. Comme le disait Anaëlle, Daniel Langlois, il y a un écart, en tout cas, entre la volonté gouvernementale, entre ce qu'il faudrait faire et la réalité du terrain et de la prise en charge.
Le problème vient du retard. Je veux dire, on peut afficher une volonté politique forte et elle est affichée. La scolarité inclusive, alors j'ai horreur de ce mot, moi, on scolarise un enfant autiste comme les autres. Donc moi je parle de scolarisation, parce que je ne vois pas pourquoi on utiliserait un autre mot pour des enfants en situation de handicap. Donc il y a une volonté au niveau national, il y a des efforts qui sont faits, par la création par exemple de ces unités d'enseignement dédiées. Mais c'est vrai que les efforts nationaux ne redescendent pas au niveau des départements, où très souvent les familles doivent se heurter à la mauvaise volonté des enseignants, à la mauvaise volonté des cadres de l'éducation nationale sur place, qui ne soutiennent pas les familles, à la mauvaise volonté des maisons départementales des personnes handicapées dont la culture inclusive est pour le moins approximative, c'est-à-dire qui défendent très peu souvent la scolarisation en milieu ordinaire et d'emblée orientent vers des dispositifs particuliers qui sont pas forcément judicieux et qui de toute façon n'ont pas d'accompagnement éducatif spécifique, donc qui n'aident pas forcément l'enfant, ou carrément dans des instituts médico-éducatifs contre la volonté des familles. Donc c'est vrai qu'il y a encore un très grand écart, malgré les efforts qui sont faits, qui sont indiscutables, entre la volonté affichée au niveau national et puis le cauchemar que vivent les familles pour arriver à scolariser en milieu ordinaire leurs enfants.
Et comment, Sandrine Saunier, pour ce qui vous concerne, au Centre de ressources Autisme Rhône-Alpes et dans votre fonction de praticienne, vous vous employez à réduire cet écart ?
Alors, on a différents axes de travail, notamment déjà pour le diagnostic précoce et la formation de toutes les PMI, les professionnels de crèche, qui a bien démarré sur la région. Ensuite, en proposant aussi des aides aux praticiens de deuxième ligne, ce qu'on appelle la deuxième ligne, c'est-à-dire des pédiatres, des psychiatres, dans les centres médico-psychologiques, un soutien pour qu'ils fassent le diagnostic, pour qu'il n'y ait pas de retard au diagnostic. Et en soutenant, bien sûr, au centre de ressources, tous les professionnels qui prennent en charge ensuite ou qui accompagnent ou qui proposent des interventions recommandées. Le problème, comme monsieur le pointait, c'est que quand on n'a pas accès à des aides spécifiques et recommandées, eh bien, on va se tourner vers d'autres professionnels et d'autres méthodes qui, elles, ne sont pas forcément reconnues et donc pas remboursées par... pas compensées par la MDPH. Donc, il y a vraiment un problème de toutes ces personnes qui sont... ce qu'on appelle malheureusement en liste d'attente ou en attente de soins recommandés et qui doivent trouver des aides qui ne sont pas toujours celles qu'on souhaiterait pour leurs enfants, ou alors ce sont des aides très partielles. Et là, il y a un véritable souci, et j'irais bien dans le même sens de ce qui a été dit à la fois par Mme Langlois et par le témoignage, c'est l'écart énorme entre la volonté des acteurs mais aussi un écart sur le territoire où il y a des personnes qui vont avoir accès à une prise en charge précoce de type Denver. Par exemple, sur Lyon, on a 2 unités d'intervention précoce, mais c'est 24 places seulement sur tout le Rhône.
Oui.
Et dès qu'on s'éloigne un peu des centres urbains, il y a vraiment un manque de propositions d'intervention.
Pourtant, pour reprendre les propos de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, chaque enfant, dit-elle, a droit à un parcours scolaire fluide et adapté à ses besoins, de l'école élémentaire au lycée. Rodolphe Fiola, vous qui êtes enseignant, ça vous parle, parce que vous avez accueilli aussi dans votre classe des enfants présentant un trouble autistique ou un handicap.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a deux demandes. Il y a d'abord la demande des parents, qui est un droit à la scolarisation, alors qui est reconnu par les textes, qui sont basés d'ailleurs sur des standards internationaux, qui sont inclusifs. C'est la loi de 2005, c'est la loi de 2013. Il n'y a aucun problème avec ces textes-là. Mais ce qu'on veut, c'est un droit à la scolarisation effectif. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant fréquente une unité d'enseignement au sein d'un IME, dont il est reconnu par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, que ce temps d'enseignement dans les IME est extrêmement inférieur à un mi-temps. C'est-à-dire qu'on est souvent sur des temps de scolarisation de 2 heures, de 3 heures. Donc, il faut un droit à la scolarisation effectif en milieu ordinaire pour tous les élèves autistes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un accompagnement adapté sur le terrain. Puisque ce que demandent les familles, c'est que les accompagnants en milieu scolaire soient formés, diplômés, supervisés et interviennent selon les modèles, selon les méthodes qui sont reconnues et validées scientifiquement, notamment par la Haute Autorité de Santé. C'est le programme ABA. c'est le programme Teach, c'est le Denver Model, c'est la mise en place des moyens de communication type X qui permettent à l'enfant vraiment, dès ses premières années et dans tous ses lieux de vie, notamment l'école et aussi au domicile, de progresser le mieux possible. Et la troisième chose, moi je voudrais dire un mot des enseignants, c'est que moi j'ai remarqué, ça fait 20 ans que je suis enseignant, une posture la plupart du temps bienveillante des collègues qui veulent accueillir mais ne savent pas comment faire. Donc il faut vraiment qu'on insiste sur l'aspect de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, avec des modules de comment accueillir un enfant avec autisme et aussi des formations en ligne avec la plateforme Autisme en ligne.
Alors justement, Laetitia Coilio, qu'est-ce que propose cette plateforme Autisme en ligne pour renforcer l'inclusion des enfants autistes en milieu scolaire ordinaire, dit ordinaire?
Alors cette plateforme, en fait, faut revenir un peu sur la genèse de cette plateforme. En fait, avec les collègues, on est parti d'un constat très simple, c'est que on peinait à trouver en France des témoignages en vidéo, notamment d'inclusion réelle en milieu ordinaire d'élèves autistes. On trouve pas mal de vidéos, souvent anglo-saxonnes, mais c'est souvent avec des pratiques en un pour un ou dans des structures particulières. Et nous, ce qu'on voulait, c'était montrer que c'est possible et comment c'est possible de le faire dans l'école telle qu'elle se présente dans notre modèle d'école française, si vous voulez. Donc du coup, on est allé filmer dans les classes, sur le terrain, avec des vrais élèves, des vrais enseignants, et sans que ce soit préparé, en fait. Donc on savait pas trop non plus ce qu'on allait trouver. C'est pour ça que je dis souvent, ça a le mérite d'être réel, mais avec aussi toutes les imperfections du réel. Et c'est vraiment ça qu'on voulait, parce que ce qu'on voulait, c'est pas la situation modèle, c'est vraiment les coulisses de ça. Et à partir de ces vidéos, on a créé différents petits modules, alors qui sont appelés d'auto-formation, peut-être auto-formation est un peu ambitieux, je ne sais pas, mais ce qu'on voulait, c'était montrer le concret, en fait, et à partir de là décliner sous différents modules différentes thématiques qui nous semblaient importantes par rapport à l'accueil de ces élèves autistes et à la scolarisation de ces élèves autistes. Donc vous avez une partie, par exemple, qui fait une mise au point sur les connaissances actuelles concernant les troubles et leur impact en milieu scolaire. Vous avez une partie sur vraiment les règles fondamentales pour accueillir des élèves autistes. Vous avez des contenus un peu plus disciplinaires, par exemple sur les mathématiques ou sur la lecture. Et puis vous avez aussi une partie de ressources bibliographiques, cytographies, etc. Et le tout, en fait, est agrémenté à chaque fois de vidéos qui sont présentées, commentées, analysées pour certaines, et de renvois internes aussi, de témoignages. Donc des vidéos, je précise un peu, à la fois de situations de classe, mais aussi des vidéos avec des interviews, des témoignages des professionnels qui parlent de leurs pratiques, qui expliquent très concrètement comment ils font. Et vous avez aussi des documents à télécharger qui parfois donnent des exemples d'outils ou ce genre de choses pour avoir un aperçu le plus pratico-pratique, le plus concret sur ce qui est possible et comment c'est possible.
Rodolphe Sula, rapidement, avant de faire une nouvelle pause musicale.
Alors, en fait, vraiment, ce qui est super avec cette plateforme Autisme en ligne, c'est qu'elle se décline autour de trois axes. Déjà, convaincre, montrer aux enseignants que c'est possible. Et ça, c'est moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la capacité des enseignants à se projeter dans les situations de classe qui sont présentées dans les capsules vidéo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment mener des adaptations pédagogiques. Et là, on voit vraiment, à un moment donné, concrètement, une enseignante dans une classe de CE1 faire une adaptation pédagogique sur une séance de lecture avec un élève autiste. Donc là, vraiment, on a la méthode pour la mettre en place. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi des points sur d'autres connaissances qui sont issues plus de la psychologie, l'ergothérapie, la psychomotricité, de l'orthophonie, qui permettent de donner et de valoriser l'expérience enseignante et de encore plus les professionnaliser. Donc c'est vraiment une plateforme qui est à disposition des enseignants et évidemment qui est gratuite.
Et c'est gratuit, ça s'appelle Autisme en ligne. On se retrouve dans deux petites minutes sur RCF avec mes invités Daniel Langlois, Sandrine Saunier, Laetitia Coilio et Rodolphe Sula. À tout de suite.
Crack up.
Wait Up, c'était Son Little sur RCF.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Mieux repérer les troubles du spectre autistique afin de les diagnostiquer et intervenir plus tôt, mais aussi mieux favoriser l'inclusion des jeunes autistes et le soutien de leurs familles. Ce sont quelques-uns des enjeux fondamentaux portés par la stratégie nationale sur l'autisme, à laquelle d'une manière ou d'une autre, un bon nombre de structures associatives et d'organismes divers, mais aussi de professionnels de santé et de l'éducation prennent leur part. C'est le cas de mes invités. On a parlé de différentes initiatives depuis le début de cette émission et on continue jusqu'à 10h. J'aimerais, avant d'évoquer peut-être telle ou telle autre initiative, accueillir Corinne de Douai. Corinne, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, je me permettais d'intervenir parce que je me pose la question, là on dit éradiquer l'autisme, mais il y a des personnes porteuses de l'autisme et que c'est important de ne pas faire la confusion entre les personnes et la pathologie et la maladie et là de l'autisme. Et je crois que ça serait un grand pas de voir des personnes porteuses d'une maladie pour voir plus profondément et plus humainement le problème.
Merci Corinne. Alors une réflexion peut-être, Daniel Langlois, l'autisme n'est pas une maladie. Enfin, comment vous appréhendez les choses par rapport à ce qui a été dit? Alors, on n'a pas parlé dans cette émission du fait d'éradiquer l'autisme.
Alors on ne dit pas maladie, effectivement, on dit trouble. L'autisme, le trouble du spectre de l'autisme fait partie d'un ensemble de troubles neurodéveloppementaux, on les appelle troubles, hein. Ce n'est pas à proprement parler une maladie. Personne ici, pas même vous, n'a parlé d'éradiquer l'autisme. En l'état actuel de nos connaissances, on est autiste et on meurt autiste. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec l'autisme de la façon la plus simple possible, la plus épanouissante possible, sans buter en permanence sur des obstacles qui rendent souvent la participation sociale très délicate. Voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. Bien entendu, il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes autistes, qui ont le droit à leurs différences, mais comme des personnes qui ont des troubles de la vision, des troubles de l'audition ou des troubles moteurs. Enfin bon, ce ne sont pas les formes de handicap qui manquent. Hein, donc voilà, bien sûr, le discours n'a jamais été celui-là. En tout cas, ce n'est pas le nôtre.
Sandrine Saunier, un complément là-dessus. Et puis une autre question. Je regroupe non seulement ce que vient de dire notre auditrice Corinne, mais aussi une autre question de Michel. Est-ce qu'il y a des statistiques indiquant une augmentation, une régression de l'autisme en France et dans le monde? Sandrine Saunier.
Alors, concernant le fait d'éradiquer l'autisme, je souscris à ce qu'a dit Daniel Langlois. Hein, on ne cherche pas à éradiquer, mais plutôt accompagner les personnes pour éviter qu'elles se retrouvent en situation de handicap. Donc, on accompagne les personnes qui présentent un certain nombre de troubles ou signes liés à l'autisme. Ensuite, concernant l'augmentation de prévalence, alors la prévalence, hein, c'est le nombre de cas à un moment donné dans la population. On constate une augmentation de prévalence très très nette depuis une vingtaine d'années et qui continue malheureusement à augmenter. On a encore peu de modèles pour expliquer cette augmentation de prévalence en dehors du fait qu'actuellement il y a un meilleur accès au diagnostic. Ensuite, pour les chiffres en France, nous n'avons pas de bonnes études épidémiologiques sur la prévalence et le nombre de cas de personnes avec autisme en France. Et peut-être que ce serait aussi un point à développer pour mieux définir les besoins des personnes.
Alors je vous laisse encore la parole, Sandrine Saunier, pendant un petit instant, puisqu'il y a Martine de Pontarlier dans le Doubs qui nous demande ceci. Elle nous dit « J'ai une petite fille autiste, on dit beaucoup que l'intestin est notre second cerveau. Le sucre a-t-il une incidence? Est-ce qu'on en tient compte du point de vue de la recherche sur l'autisme et des troubles des enfants interactifs ?» nous dit-elle.
Peut-être, elle voulait dire des enfants hyperactifs, je ne sais pas.
Hyperactif, si... enfin je lis ce qui
met... Oui, ça doit être hyperactif.
Ça doit être hyperactif, effectivement interactif, ce n'est pas trop clair. Allez-y, Sandrine Saunier.
Alors, il y a plusieurs recherches sur tout ce qui est pathologie gastro-intestinale. Il y a aussi des recherches pour ce qui est de l'immunologie. Hein. On pense que l'autisme pourrait avoir, dans certains cas, une cause immunologique. Pour le moment, il n'y a pas de lien entre sucre et autisme, de même que le lien entre sucre et hyperactivité reste encore très hasardeux. Donc, je dirais que c'est du domaine de la recherche. Je ne peux pas donner une réponse à cette maman de manière complètement claire à ce niveau.
Rodolphe Sula, sur ce qui vient d'être dit sur le terme éradication, je vous voyais réagir fortement.
Alors en fait, ce qu'il faut éradiquer, c'est l'intolérance au handicap, l'intolérance aux personnes autistes, l'intolérance à la différence dans la société. Et on est vraiment dans un changement sociétal profond, un changement de regard, c'est-à-dire que la place des personnes autistes, la place des personnes en situation de handicap, elle est dans la société. Et il faut travailler à lever tous les obstacles environnementaux qui ne permettent pas aux personnes en situation de handicap de s'inclure au mieux. Je voyais un jour dans un congrès d'Autisme France une vidéo assez impressionnante où on voyait une entreprise. C'était, ça se passait au Japon, et un ouvrier japonais qui travaillait sur des palettes de bois et qui formulait sa demande à son chef de service, il avait besoin de plusieurs palettes de bois, avec son classeur de communication PEX, où là on voit à un moment donné que c'est pas seulement à la personne autiste de s'adapter, mais c'est aussi à la structure sociale, en l'occurrence ici une entreprise, de s'adapter aux personnes autistes. C'est ça qu'il faut favoriser. En aucun cas éradiquer, évidemment, ni les personnes, ni même le trouble, mais vraiment essayer d'éradiquer l'intolérance et d'éradiquer l'inadaptation pour permettre l'inclusion réelle.
Justement, sur ce point, Laetitia Coelho, comment l'inclusion est un facteur, je dirais, de renouvellement, et on parlait de l'école, de renouvellement pédagogique qui peut profiter à tous, à l'ensemble d'une classe, par exemple?
Il y a plusieurs dimensions. Il y a déjà le fait que les adaptations qu'on propose pour des élèves autistes, en général, ils sont tout à fait pertinents également pour l'ensemble de la classe. Et j'ai même envie de prendre le problème à l'inverse. C'est que si on pense la question de l'inclusion scolaire et de l'école inclusive en prenant simplement le petit bout de la lorgnette, à savoir les élèves en situation de handicap, c'est comme de mettre une rustine sur un filet. Ça va être très, très problématique. En amont même des méthodes pédagogiques spécifiques à l'autisme, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, il y a des spécificités à l'autisme, il faut pouvoir les prendre en compte d'un point de vue pédagogique, on est bien d'accord. Mais par contre, en amont de cela, il faut aussi que l'on puisse mettre en place les pratiques pédagogiques qui favorisent l'accessibilité pour tous les élèves. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et un des bienfaits, si on peut dire, du handicap, des besoins éducatifs particuliers, c'est que ça nous force en tant que professionnels aussi à renouveler nos approches, à nous renseigner, à nous ouvrir à d'autres pratiques. Et à du coup à travailler en ce sens. D'autre part, l'inclusion, elle est fondamentale aussi parce que l'école, c'est aussi un lieu de vie, et que ça permet aussi de mieux faire comprendre la réalité des troubles, que ce soit l'autisme ou d'autres hein, d'ailleurs. Ça apprend aussi aux élèves la tolérance, ça apprend à comment vivre ensemble de manière adaptée, et du coup les enfants, les élèves sont eux les premiers médiateurs dans cette transition, dans ce changement de paradigme vers une société plus inclusive.
Et là, il n'y a pas de condescendance, en fait.
Non, pas de la part des enfants.
Et moi, je vais juste témoigner au niveau personnel. Moi, je ne suis plus le même enseignant avant le handicap et après le handicap. Parce que justement, ces difficultés, ces différences d'apprentissage de mon fils m'ont fait réfléchir justement aux gestes professionnels que j'ai moi en tant qu'enseignant dans ma classe. Et quand j'ai accueilli moi-même des élèves autistes dans ma classe, j'ai bien vu que non seulement j'étais dans l'obligation de gérer une classe hétérogène, et que ce que je mettais en place comme outil de structuration visuelle, comme outil d'explication avec un travail de vocabulaire, avec des supports imagés pour permettre à l'enfant autiste, à l'élève autiste de comprendre une histoire, ça servait à tous mes élèves et pas seulement d'ailleurs à ceux qui étaient en difficulté. Donc on a vraiment avec la mise en place d'adaptation pédagogique, ce qui est proposé par la plateforme Autisme en ligne, on a vraiment une qualification enseignante qui s'expertise quelque part et qui permet vraiment de gérer l'ensemble du groupe classe au mieux. Et contrairement à une idée reçue comme quoi, il y a un enfant handicapé dans la classe, ça va faire baisser le niveau. Bien au contraire, ça augmente la professionnalité enseignante.
Daniel Langlois, une réaction aussi par rapport à ce qui vient d'être dit là-dessus, et ça rejoint une réflexion qu'on a eue dans cette émission, c'est un changement de culture auquel nous sommes appelés.
Tout à fait. Je pense que pendant très longtemps, en France, la personne en situation de handicap, on l'a exclue, on l'a isolée. Beaucoup de départements très ruraux ont comme triste réalité d'en accueillir des milliers. Et c'est une révolution qui est en cours. Où, de nouveau, la personne en situation de handicap, sa place est parmi les autres. Moi, je voudrais rejoindre ce qu'a dit Monsieur Sciola. Moi, j'étais enseignante pendant 41 ans. Et donc, le fait d'avoir un enfant autiste a totalement changé ma pratique enseignante. Parce que, du coup, j'étais attentive à ceux qui avaient des difficultés. Et ça m'a beaucoup servi dans ma vie de comprendre ce qu'était un enfant en situation de handicap. Je pense que c'est un effort national qui doit être maintenant mis en œuvre. Ce qui manque en France, ce sont des campagnes de sensibilisation nationale à l'autisme, comme ça existe dans d'autres pays. Moi, j'ai emmené mon fils autiste il y a 4 ans au Canada, au Québec. Bah, tout le monde a identifié mon fils comme étant autiste et a aidé chacun à sa façon, y compris dans les restaurants. Voilà, en France, ça, ça manque. Hein, on n'a pas cette sensibilisation.
Il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission. Je vous laisse la parole, Sandrine Saunier. Il y a, pour résumer, finalement, beaucoup de travail qui reste encore à faire, mais une dynamique positive qui tente à s'enclencher.
Une dynamique très positive. Quand on voit la situation des personnes avec autisme il y a 15 ans, on est quand même sur un changement et une évolution très nette sur l'inclusion, l'accès au diagnostic. Le gros manque, ça reste les adultes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement faites pour les enfants et qui sont bien parties, notamment dans l'éducation nationale. Mais il y a tout le champ de l'insertion professionnelle et du diagnostic pour des adultes qui reste à construire. Donc il y a un énorme travail pour un nombre de personnes qui reste important. C'est 1% de personnes, 1% de la population qui présente un trouble du spectre de l'autisme.
Allez, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Je renvoie au web documentaire Autisme, les premiers signes, www.autisme-les-premiers-signes.org, la plateforme Autisme en ligne, www.autisme-en-ligne.eu. Et je rappelle que ce sont des initiatives portées par la FIRA qui seront mises en avant le 17 mars à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion de la 7e rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté. Renseignements et inscriptions sur le site de la fondation www.fira.org. FIRA, ça s'écrit F-I-R-A-H.